France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Des retours sur images ce samedi dans Plan large avec Agnès de Sacy et Jean-Michel Frodon et aussi Sandra Onana. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. Des retours sur images, qu'elles soient d'aujourd'hui ou d'hier, c'est évidemment ce que nous faisons chaque samedi dans cette émission, mais c'est aussi le geste de deux cinéastes cette semaine qui font retour sur leur passé et leur histoire et sur les images qu'ils ont produites. Les unissent un goût commun pour les grands blocs narratifs, entrecoupés d'ellipses non moins vastes pour raconter avec une troublante profondeur émotionnelle parce que temporelle, de grandes amours contrariées. La première, nous la connaissions jusque-là comme scénariste, de Valeria Bruni-Tedeschi et de Zabou Breitman, de Philippe Godot et Pascal Bonitzer et bien d'autres encore. Agnès de Sacy nous avait raconté son métier à distance il y a 4 ans quand les salles de cinéma étaient fermées à cause de l'épidémie de Covid. On la découvre aujourd'hui réalisatrice avec un premier film de fiction au titre des plus romanesques, La fille d'un grand amour. Elle y revient sur ses premiers pas de réalisatrice en 1992 à la sortie de La Fémis et l'impact que ces images eurent alors sur ses parents séparés, revisitant par là même la forme canonique de la comédie du remariage. Elle nous en dira plus dans un instant et nous sommes ravis de la recevoir enfin en chair et en os dans ce studio. Le second avait présenté au dernier Festival de Cannes un des films les plus bouleversants de la compétition, même si le jury ne s'en était manifestement pas aperçu. Il s'appelait alors Caught by the Tides et il est sorti mercredi dernier sous le beau titre des Feux Sauvages, un film magnifique où Jia Zhangke opère une plongée dans sa propre œuvre, utilisant des images inédites tournées sur plus de 20 ans en marge de ses fictions et documentaires pour raconter là encore une histoire d'amour ratée mais aussi regarder vieillir ses acteurs fétiches. Le cinéaste retenu, quelle bonne nouvelle, par un tournage en Chine n'est pas revenu en France pour parler de son film. Peu importe, celui qui le connaît sans doute le mieux de par chez nous, le critique et historien du cinéma Jean-Michel Frodon est avec nous pour ce faire, nous l'entendrons tout à l'heure. En fin d'émission, Sandra Onana reviendra elle aussi sur des premiers pas, ceux de Pedro Almodovar il y a 45 ans, alors qu'est sorti mercredi son nouveau film, La chambre d'à côté. Mais pour l'heure, on commence évidemment par le commencement, pour ne pas dire la scène primitive.
Mes parents ont été mariés pendant 17 ans. Ils se sont rencontrés dans un magasin d'antiquités où ma mère travaillait. Petite, j'imaginais ma mère en robe de princesse dans le fond obscur de sa boutique. Et mon père, sur le seuil, était alors le prince charmant de ce conte de fées.
Bon, j'ai poussé la porte du magasin, ça a dû faire ding-ding, comme dans toutes les boutiques. Et puis, une boutique très en longueur, assez sombre dans le fond, et une femme avec des cheveux flamboyants, une taille très très mince, et puis à partir de la taille, une jupe comme une cloche partant dans tous les sens, et un très beau bustier. Et surtout des yeux d'un bleu transparent, clair, extraordinaire, qui me regardaient.
La porte s'est ouverte et un grand jeune homme est rentré, très grand, avec un imperméable très court. Pourtant, je dis que je pense qu'il pleuvait, vous l'avez pu. L'imperméable était blanc, lui était très brun, avec des yeux tout de suite frappé.
Et on s'est regardé tous les deux, et puis toc, ça m'a fait quelque chose, quoi, comme quand on rencontre une femme, et puis on sent qu'il y a quelque chose qui passe.
Vraiment, dès qu'il est rentré, je sais pas, je sais que c'est un mot très très usé, mais j'ai un coup de foudre. J'ai un coup de foudre pour peut-être pour cet homme qui était peut-être l'écho de quelque chose que je portais en moi, et qui est arrivé comme ça, soudainement dans ma vie.
Bonjour Agnès de Sacy.
Bonjour Antoine.
Ce qu'on vient d'entendre, ce n'est pas un extrait de La fille d'un grand amour, même si on y entend les mêmes mots, mais pas portés par les mêmes corps. Ce sont vos parents qu'on vient d'entendre, Anne-Marie et Alain de Sacy, pour les nommer. Ça vient d'un film que vous avez tourné il y a plus de 30 ans, à la sortie de la FEMIS. Vous y étudiez alors en filière réalisation, comme quoi on peut devenir scénariste après des études de réalisation. De même qu'à la FEMIS, on peut devenir réalisateur souvent après des études de scénario. C'était une commande d'Arte. Filmer vos parents, et voilà que vous demandez à vos parents, séparés depuis une quinzaine d'années, de vous raconter leur première rencontre. Le film s'appelait L'un de l'autre. Qu'est-ce que vous cherchiez par là, la jeune fille que vous étiez alors, Agnès de Sacy?
Alors, très franchement, c'est important de préciser que c'était une commande d'Arte. Oui. C'est-à-dire que on était plusieurs étudiants à avoir été approchés avec un thème donné qui était filmer vos parents. Nous sortions de l'école ou étions en dernière année. On était évidemment fous de joie d'avoir l'occasion de faire un film documentaire pour Arte. C'était un film documentaire, c'est très important. Et donc, je n'aurais de moi-même jamais eu, je pense, l'initiative et l'idée d'aller voir de ce côté-là. À partir du moment où
disons
la commande...
Disons que ça vous autorisait à le faire.
Voilà, c'est ça. Et c'est la vertu de la commande, parfois. C'est que justement, ça permet parfois de transgresser, d'imaginer des choses qu'on ne pourrait pas faire par soi-même. Et à partir de ce thème, filmer vos parents, j'ai essayé, moi, en fait, très modestement, d'enquêter, comme petite enquêtrice que j'étais de 27 ans, sur ce qu'était la légende familiale.
C'est ce qui est raconté d'ailleurs dans le film, on va le dire. Hein, voilà, c'est une enquête très précise, comme la reconstitution d'un crime.
La reconstitution d'un crime, exactement. C'est-à-dire le coup de foudre. Que s'est-il passé précisément dans cette légende, ce moment où il est entré dans le magasin, elle était vendeuse dans le magasin, et voilà. Et quelque chose d'unique, d'exceptionnel s'est passé. Donc je suis partie dans une espèce d'enquête très minutieuse, quels mots vous vous êtes dit, comment tu étais habillée, quelle lumière il y avait, etc. Pour comprendre, parce que le coup de foudre, moi je ne l'avais d'ailleurs pas vécu moi-même, c'est autre chose que le sentiment amoureux. Donc qu'est-ce que c'est précisément? Et ce qui est arrivé, que j'ai découvert au montage, en vérité ça a été une deuxième étape, c'est que les souvenirs du réel, c'est-à-dire les vêtements, les mots, ne coïncidaient pas du tout. Donc est arrivé un deuxième élément très important qui est la mémoire et donc le temps, puisqu'il me racontait tout ça des années après et après leur divorce. Et en même temps, une déflagration amoureuse renaissait devant mes yeux et devant la caméra de la jeune fille que j'étais. Et de fait, mes parents qui étaient donc à l'époque divorcés depuis 17 ans, en voyant le film, ont été bouleversés par la parole de l'autre, en fait, et ont décidé de se revoir.
Alors, bouleversés par la parole de l'autre, on pourrait dire aussi par l'image de l'autre. Des questions qu'on se pose en voyant votre film, qui raconte précisément cette histoire, l'impact que ces images ont eu sur vos parents, c'est qu'on se demande si c'est pas presque l'image de l'autre qui fait qu'il retombe amoureux.
Oui, je pense. D'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de travailler dans la fiction, dans la première partie de La fille d'un grand amour. Je pense évidemment qu'il tombe aussi amoureux d'une image projetée de l'autre. Et c'est d'ailleurs un peu le drame de leur couple. C'est-à-dire que depuis le début, ils se le disent. Hein, lui se souvient d'elle avec une robe bleue magnifique. Elle disait qu'elle avait un tailleur gris. Ensuite, elle le lui reproche de l'avoir idéalisée, etc. Ils sont, pour moi, de grands géants de l'amour, mais de ces amoureux de l'amour, presque au sens littéraire, qui n'aiment jamais aussi bien que lorsqu'ils idéalisent l'autre. Donc effectivement, l'image projetée, l'image déjà filmée par leur propre fille, et en plus projetée sur grand écran, il n'y a pas plus beau quoi, pour retomber amoureux. Et à mes yeux, le trajet du film, de La fille d'un grand amour, de ma fiction, est justement précisément de sortir de cet amour extraordinaire, puissant, mais idéalisé, pour arriver à reconnaître quelque chose de l'autre dans sa réalité.
Alors ça, on y reviendra, puisque c'est une des structures de base de la comédie du remariage, on va en parler tout à l'heure, mais c'est déjà un bon exercice d'écriture, j'imagine, pour une réalisatrice qui sera une future scénariste, que d'articuler un champ et un contre-champ contradictoires, précisément, au montage. C'est-à-dire que vous avez vraiment fait le montage comme un exercice d'écriture. À l'époque, hein, je parle du film
d'origine.
Oui,
vous parlez du documentaire, oui. Absolument. D'ailleurs, de toute façon, c'est la base de ce film-là. Et moi, je disais à l'époque, effectivement, c'est vraiment un champ contre champ imaginaire, puisque ma mère, puisqu'ils étaient séparés, ma mère était repartie vivre en Espagne. Elle était d'origine espagnole. Et mon père à Paris. Et de fait, donc, on est vraiment dans des espaces identifiés très clairement, voilà, différents, avec une lumière différente et en même temps, ça a été sur les regards, les directions de regard, etc. Effectivement, construit comme un champ contre champ et des paroles qui se répondent, qui se contredisent. Enfin, effectivement, un dialogue que nous avons construit au montage, enfin que j'ai pensé à la mise en scène et que nous avons construit au montage.
Mais même si l'une est à Cadaquès et l'autre est à Paris, cet espace commun, vous le créez,
oui.
Parce que le film est cet espace commun dans lequel ils habitent tous les deux avant même qu'ils se retrouvent et qu'ils se remettent ensemble.
Oui, mais cet espace commun, alors j'en avais peut-être un savoir inconscient, mais c'est un amour égaré. C'est un peu comme... c'est un peu comme immodeste, mais c'est comme un film d'aventure presque. C'est-à-dire que un amour égaré, c'est comme un diamant perdu. C'est-à-dire c'est très très grave. Il faut aller le rechercher. Et donc ils sont dans cette espèce de quête. Et c'est ça, cet espace commun dont j'ai pris conscience évidemment au montage. C'est la grande vertu du montage, c'est qu'on comprend ce qu'on a voulu faire.
Alors, quand nous vous avions interrogé à distance donc sur votre métier, notamment sur vos collaborations avec Valeria Bruni-Tedeschi. Mmh. Vous aviez parlé de cet exercice d'autobiographie imaginaire que vous pratiquez avec elle, sur sa vie à elle, avec les films que l'on connaît. Est-ce que précisément ce travail que vous avez fait auprès de Valeria Bruni-Tedeschi et autres, mais en particulier celui-là, vous a aidé pour faire l'autobiographie imaginaire de vos parents, en l'occurrence?
Oui, c'est essentiel. Je pense que je ne serais jamais arrivée à écrire ce film sans les années de travail sur les films de Valeria Bruni-Tedeschi avec Noémie Lvovsky. C'est-à-dire, il y a effectivement un processus que j'ai appris au fur et à mesure, qui est d'une certaine façon de prendre le matériau, on va dire réel, en tout cas autobiographique, et le matériau inventé, exactement au même niveau. C'est-à-dire ce que nous cherchons, c'est une sorte de vérité romanesque. Et c'est très étrange, et qu'est-ce qui fait tout d'un coup vérité? Et ça n'est pas forcément le réel. Donc à partir de là, c'est une question perpétuelle. Donc,
c'est un détail parfois, l'imperméable trop court.
Voilà, exactement, qui tout d'un coup fait surgir un personnage. Là, effectivement, et comment tout le chemin d'élaboration à partir d'éléments qu'on va dire une sorte de musique intérieure qui est un terrain à partir duquel on travaille, et ensuite on fait un énorme travail d'élaboration, un peu, alors je me permets, c'est un peu pédant, mais il y a une très belle phrase de Philippe Roth sur le travail d'autofiction qui est vraiment sur le travail de dénarcissisation. C'est-à-dire il faut vraiment Il ne s'agit pas de se regarder dans le miroir, il s'agit évidemment de faire tout un travail de détachement pour arriver à là encore, c'est comme une enquête, quoi. C'est-à-dire une espèce d'énigme qui est soi, ou ses parents, ou cette musique intérieure. Et ensuite, il faut le regarder très précisément, avec beaucoup, beaucoup d'exigences, et en étant peut-être encore plus impitoyable, je dirais. Et plus cinglant, et sans avoir peur de l'autodérision, et en sachant se moquer de soi-même, sinon on est foutu, sinon on est complaisant, et c'est terrible. Donc il faut absolument avoir cette dureté, cet humour dans le regard pour arriver à travailler, je crois, sur ce matériau.
Alors, petit exercice de comparaison, après la voix de vos parents, on va écouter celle des comédiens qui s'en emparent ou s'en inspirent.
Mais tu veux qu'on soit mariés?
Pardon?
Ben oui, je sais pas, on pourrait...
Toi et moi, se remarier?
Ben oui, mais pour la retraite. Toi, tu vas avoir une toute petite retraite, t'as pas dû cotiser beaucoup avec ton métier. Tu vois, si on se remarie, mais tu pourrais profiter de ma retraite. Et puis si je meurs, ben, t'es protégé, ils continueront à payer. La pension de réversion, ça c'est que ça sert. Sinon, ouais, c'est perdu, hein. Excuse-moi, mais c'est con, quoi. Et puis, statistiquement, je vais partir avant toi.
Non, arrête.
Et puis pour les impôts, on payera moins d'impôts.
Tu me proposes un mariage arrangé, en fait.
Mais non. Toi et moi, on s'en fout des conventions, du jeu social, tout ça. C'est déjà à l'époque, c'est... Mais... Et on pourrait quand même se remarier et...
se remarier, le mot est dit. Jean-Michel Frodon, vous avez vu le film d'Agnès de Sacy, comédie du remariage ?
Oui, comédie du remariage, objectivement, on pourrait dire, ça serait impossible de dire le contraire, puisqu'on a des gens qui ont été mariés et qui vont se remarier, qui me semble explore par ailleurs, parce que comédie du remariage se réfère à un ouvrage en particulier de Stanley Cavell, La poursuite du bonheur, qui en a étudié les formes dans la comédie sentimentale hollywoodienne des années 30 et du tout début des années 40. Il me semble que ça ne suit pas le même processus. Il me semble que les réalisateurs et les scénaristes hollywoodiens n'avaient pas forcément les mêmes horizons au moment où ils concevaient ces films-là que vous, Agnès de Sacy. Et que là, on explore quelque chose, mais vous l'avez déjà extrêmement bien dit, qui est de l'imaginaire de l'autre, plus que de la construction d'une forme d'inscription dans une société, dans un environnement, de trouver une place singulière et désirable dans des codes, qui est plus ce qu'on voit dans le cinéma hollywoodien. Et donc, sur le schéma dramatique de la comédie du remariage, vous en faites quelque chose d'autre en réalité.
Bah, en tout cas, il ne suffit pas de se remarier pour tout régler, quoi.
Oui, c'est aussi ce que dit ce film. Un remariage qui ne répare rien, je crois que je l'ai lu quelque part, mais c'est vraiment ça. D'ailleurs, il y a une phrase, une phrase que j'aime beaucoup, et je trouve que François Damiens l'a dit extraordinairement, et qui pourrait en fait être une sorte de sous-titre, qui est après le mariage, justement. Alors, je vais peut-être pas dire ce qui se passe exactement, mais ça ne se passe pas de façon.
Il y a une histoire sous l'histoire.
Voilà, il y a une histoire sous l'histoire, et puis il y a surtout quelque chose. Un petit événement, et il reste avec sa fille et qui est totalement désemparée, qui ne comprend pas ce qui se passe, et il dit cette phrase, il dit « mais pourquoi un mariage, ça devrait être heureux ?» Et la fille évidemment s'énerve parce que elle attend de ses parents d'être heureux. C'est quand même un grand moment, un remariage après tout ça.
Le rêve de tous les enfants.
Voilà, et bien sûr, c'est ça.
Et d'Hollywood, voilà. Dans la comédie du remariage hollywoodienne, en fait, c'était la réponse heureuse assurée.
Voilà. C'est ça,
là,
c'est ça.
Tout reste.
Et là, je joue
mouvement.
Avec ces codes pour en fait effectivement les détourner. C'est-à-dire que ça part sur le fantasme de cette jeune fille qui involontairement réunit ses parents, et puis en fait, cette histoire lui échappe totalement, et ça devient l'histoire de deux êtres. Et c'est là où on n'est plus du tout d'ailleurs dans l'autobiographie,
le personnage qui pourrait être vous, en tout cas cette jeune fille réalisatrice, disparaît assez en fait.
Enfin, voilà, elle reste là, elle est un peu en sous-texte, on va dire, elle soutient l'édifice, mais c'est, on ne reste pas sur son point de vue. Et je bascule du point de vue, ça a été des vraies grandes questions justement à l'écriture, mais j'ai choisi de basculer du côté du point de vue des parents, qui devient du coup une énigme, et on n'est plus dans l'autofiction, parce qu'en réalité, très précisément, à partir du moment où ils se sont retrouvés à cette projection, donc à 20 minutes du film, après, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Par définition, j'y étais pas. Et donc j'invente. Et à partir de là, ça devient extrêmement plaisant, avec évidemment quelques étapes de parcours que je connaissais, et extrêmement jubilatoire. D'imaginer la complexité de... En fait, je voulais surtout rendre compte de la complexité de ces deux êtres et de la singularité de ce lien qui est fait de leur grande solitude, de leur secret, de leur honte, de leur tentative de liberté aussi, de part et d'autre. Et voilà, c'est plutôt un chemin finalement d'un homme et d'une femme vers quelque chose de leur propre vérité, oui.
Alors, je ne sais pas si votre père écrivait, en tout cas, celui du film écrit, et c'est quelqu'un qui rêve d'écrire, qui n'y arrive pas, mais dont les écrits ont quand même un certain impact, et vous avez un grand plaisir manifeste à filmer l'écriture.
Ça me fait extrêmement plaisir que vous me dites. Ouais, effectivement, je m'y attendais pas. Hein. Alors, évidemment, l'écriture, on va dire, ok, ça fait 30 ans que je suis là-dedans, donc ça paraît. Mais en fait, je pensais pas que j'aimerais filmer ça. Alors, oui, mon père écrivait énormément. Ça fait partie d'ailleurs un peu du personnage de Yves. Il fait partie de ces êtres qui ne se sont pas autorisés ensuite à donner à lire ce qu'il écrivait. C'est-à-dire que il est décédé. il y a un peu moins d'un an, et j'ai des armoires pleines de cahiers, mais vraiment pleines de cahiers manuscrits, parce qu'il écrivait beaucoup à la main, de journaux, de récits, de voyages, etc. J'en ai lu un peu, on partageait beaucoup d'échanges comme ça, même un texto de lui, c'était une aventure littéraire, c'était vraiment un homme qui était dans les mots et qui avait un grand respect pour la chose écrite. Donc je pense que quelque chose de ça évidemment est passé, et je ne pensais pas, mais je suis heureuse que si c'est dans le film, ça a été un grand bonheur de filmer. J'ai eu l'impression que filmer un homme en train d'écrire et de chercher les mots, et tout d'un coup, c'est ma grande référence étant Irène de Alain Cavalier, qui est pour moi voilà, non seulement un bijou, mais aussi d'ailleurs un grand film d'amour, et qui passe aussi par le journal et par la matérialité de l'écriture. Et l'écriture, c'est un paysage en fait. Et je l'ai filmé avec autant de plaisir que les grandes plaines du Roussillon avec les montagnes.
J'ai envie de vivre, de recommencer. Je ne veux plus suivre mes tristes pensées. J'ai envie d'apprendre pourquoi je suis fait. Envie de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce par faiblesse de ma volonté qu'un soir de détresse je me suis couché? Quand le mal de vivre sur moi s'est posé, j'ai voulu dormir sans me réveiller. Pour apprendre à vivre, je me suis baissé. Je me croyais libre de tout essayer. J'étais trop fragile ou désemparé. Tout allait trop vite et je suis tombé.
Merci Agnès de Sacy. La fille d'un grand amour est sortie en salle ce mercredi. Et puis pour vous réentendre parler de votre métier de scénariste, cette fois c'était dans Plan Large le 20 février 2021. Et c'est réécoutable en podcast et sur l'application de Radio France. Vous écoutez France Culture, Plan Large, et vous restez bien sûr avec nous. Agnès de Sacy, il est temps de se laisser emporter par les marées et les feux sauvages.
您今天心情怎么样？对不起，我看不清您的表情。您好像有点伤心。
新世纪第一个春天正在向我们走来。赫美莎，听你说，当你爱到痛时，
Si vous vous demandez ce que c'est que cette drôle de voix qu'on entend dans la bande-annonce internationale des Feux Sauvages, c'est celle d'un robot de ceux qui vous accueillent dans les centres commerciaux chinois pour vous parler de Mère Teresa. Rebonjour Jean-Michel Frodon. Avant qu'on ne se plonge dans la profondeur temporelle et romanesque de ces Feux Sauvages, il n'est peut-être pas inutile, vu que le dernier de ces films à avoir été distribué en France, c'était Les Éternels, est sorti depuis déjà presque 6 ans, de rappeler qui est Jia Zhangke. Vous n'avez pas hésité dans le livre que vous lui avez consacré il y a maintenant 10 ans, Le Monde de Jia Zhangke, à le qualifier de plus grand cinéaste en activité. Rebelote 5 ans plus tard dans le programme de la rétrospective que lui avait consacré en 2020 la Cinémathèque française. C'était alors pour vous le plus grand cinéaste d'aujourd'hui. Vous maintenez le qualificatif en ce 11 janvier 2025, Jean-Michel Frodon.
Je maintiens tout à fait l'explication. On s'en fiche de faire des compétitions et de décerner des médailles d'or. Pour moi, c'est, je dirais, peut-être mieux le cinéaste, peut-être le plus important de notre début de 21e siècle, au sens où c'est quelqu'un qui a accompagné le phénomène historique le plus important du début de ce 21e siècle, le basculement planétaire qui a été la transformation de la Chine en quasi première puissance mondiale, 1,5 milliard de gens qui ont changé d'existence à une vitesse jamais expérimentée par l'humanité dans toute son histoire, et le cinéaste qui aura su le mieux, pas le seul, de la manière la plus complète, la plus ouverte quant aux moyens mobilisés, avec les outils du cinéma, accompagner, décrire ça et nous y rendre sensibles, c'est Jia Zhangke, depuis la toute fin des années 90, avec son premier long-métrage, Xiaowu, Artisan Pickpocket, jusqu'à ce nouveau film inclus, qui est à la fois un état contemporain de la Chine actuelle, c'est-à-dire entre autres choses, de la Chine post-Covid, et une histoire déjà longue maintenant, puisque nous retraversons ce quart de siècle qu'accompagne, que remet en récit le nouveau film, donc Les Feux Sauvages.
C'est aussi quelqu'un qui a un parcours assez étonnant au sein du système à la fois industriel et politique du cinéma, qui commence avec des films interdits, des films underground, puis qui sont autorisés, puis qui sont réinterdits au moment de Touch of Sin, qui devient même député à l'Assemblée nationale populaire pour sa province natale. C'est peut-être pour ça qu'il a plus trop le temps de faire du cinéma entre-temps, qui crée des festivals de cinéma, des salles. Enfin, c'est quelqu'un qui est assez central au sein du cinéma chinois.
C'est quelqu'un qui, très tôt, faut comprendre que Jia Zhangke, à la différence de la quasi-totalité des cinéastes chinois importants que nous avons pu connaître, en tout cas depuis le milieu des années 80, ce qu'on appelait la cinquième génération, c'est des gens qui venaient de Pékin et de Shanghai. Jia Zhangke, il vient d'un trou. Il vient de la province du Shanxi, il vient d'une
province minière, notamment.
Une province minière très pauvre, c'est la vallée du fleuve jaune, c'est les vallées des paysages de l'Eus, les mines, c'est des paysages âpres et violents, une petite ville qui s'appelle Fengyang et qui va, selon un parcours tout à fait improbable, obtenir une place et une visibilité grâce à la reconnaissance à l'étranger, Festival de Berlin, puis des distributeurs français qui vont sortir Xiaowu, et construire cette place-là tout en restant interdit. Et c'est quelqu'un qui, puisqu'il se trouve que je le connais depuis le début, toujours a voulu que ses films soient visibles en Chine. Il n'a pas voulu rompre ou il n'a pas accepté ce qu'ont fait d'autres. Il y a un deuxième très très grand cinéaste chinois de la même génération, c'est Wang Bing. Wang Bing a accepté que ses films seraient tous interdits en Chine au nom du travail extrêmement important, magnifique, qu'il fait pratiquement uniquement sur le terrain documentaire. Lui, Jia Zhangke, a essayé de parler aux autorités tout le temps. Et il a eu du mal, et au début, on lui a claqué la porte au nez. Et puis, il est revenu, et il a fini par obtenir des choses. Moi, je l'ai accompagné au bureau du cinéma chinois, à la censure, où il allait plaider la cause d'autres réalisateurs chinois. Il n'y a pas tellement de gens qui font ça.
Parce que c'est aussi le chef de file de toute une génération qu'il produit également.
Alors, il va le devenir, ça. À ce moment-là, je parle des années 2000, la première décennie Paris. Il est encore dans cette phase ascensionnelle. Il va obtenir cette grande reconnaissance publique, y compris en Chine même, grâce au Lion d'Or à Venise du film Still Life en 2006. Avant, il avait commencé à être officialisé avec le film qui s'appelle The World et qui est le premier autorisé et coproduit par un studio officiel. Et depuis, il n'a pas cessé d'essayer d'être à la fois à sa place de cinéaste, parce que bon, le dernier film de lui, la dernière fiction distribuée, donc c'est les Éternels avant Les Feux Sauvages, mais entre-temps il a réalisé un très long documentaire sur les écrivains sur plusieurs générations, qui fait un peu le même travail en fait que Les Feux Sauvages du côté de la littérature, en accompagnant trois générations. On commence avec des gens qui étaient combattants dans l'armée de Mao Zedong en 1945, pour finir avec une jeune écrivaine contemporaine d'aujourd'hui, plutôt en mauvais termes avec le régime, etc. Et qu'il fait partie d'un festival de littérature qu'il a créé en même temps que le festival de cinéma également.
À Pingyao.
À Pingyao, donc la ville voisine de Fengyang, de sa ville natale dans le Shaanxi, et qui fait partie d'une stratégie qui fait qu'il a créé des salles pour qu'il n'y ait pas, puisque après l'apparition de Jia Zhangke et de cette génération, un peu plus tardivement, a lieu une explosion du cinéma commercial chinois, avec l'ouverture de plusieurs milliers de grands écrans par jour pendant plusieurs années d'affilée sur tout le territoire chinois, et qui fait qu'aujourd'hui il y a le nombre de spectateurs est plus élevé en Chine que n'importe où ailleurs au monde, le nombre de films distribués, le nombre de salles, le nombre d'écrans. Pas le box-office, parce que en dollars ça fait toujours plus, mais au milieu de cette forme de violence, qui est aussi une traduction du néo-capitalisme chinois, lui a travaillé à faire exister d'autres cinémas, le sien, celui d'autres jeunes d'autres réalisateurs chinois, y compris de la génération qui vient après lui, dont il s'est fait le producteur à cette occasion, mais aussi des films pas chinois, et donc il y a il est très présent et très actif sur beaucoup de fronts à la fois. Il n'a jamais arrêté de vouloir faire des films. Il n'a jamais renoncé. Il est en train de tourner et il avait toujours des projets en cours qui parfois rencontraient des difficultés, y compris, comme vous l'avez mentionné, à la dernière minute, vraiment dans la semaine qui a précédé la sortie, le film, peut-être son film le plus célèbre ici, A Touch of Sin, qui a été interdit en Chine alors qu'il avait été autorisé auparavant par l'administration.
Ceci rappelé, place au nouveau film de Jia Zhangke, Les Feux Sauvages.
La Venus, ni hao.
On ne l'entend pas parce qu'elle est muette pendant tout le film, ou presque, mais il y a dans cet extrait l'actrice avec un grand A, la grande actrice de Jia Zhangke, c'est Zhao Tao. Elle joue Xiao Xiao dans ce film, une femme qui va partir à la recherche de l'homme qu'elle aime à cause de raisons économiques, de raisons sentimentales. Enfin, on sait pas trop pourquoi il la fuit et comment ils se retrouveront. C'est un film dont les images datent de 2001 à 2023. Je parlais de profondeur temporelle tout à l'heure. Qu'est-ce que la matière de ce film, Jean-Michel Frodon? À partir de quoi Jia Zhangke a-t-il fait ce film?
Alors, en 2001, Il a déjà réalisé deux films, Jiazhenke, un avec une caméra 16 mm Xiao Wu, et puis un avec une caméra 35 mm avec les outils classiques et les plus valorisés, disons, du cinéma traditionnel qui est plateforme. Mais en 2001, il découvre les petite caméra numérique et les possibilités que ça donne. Et à partir de ce moment-là, en compagnie de celle qui est devenue son actrice sur plateforme, Chao Tao, et de son chef opérateur, Yuli Kwai, entre les tournages, puisqu'en plus de toutes les choses qu'on a déjà dit qu'il fait, il ne s'ennuie pas ou il ne chôme pas le reste du temps, ils vont partir tourner un peu au hasard, c'est lui qui le dit, des choses qu'il rencontre un peu partout en Chine. Ils appelaient ça aller à la chasse, parce que Yuli Kwai, qui lui parlait français et anglais, à la différence des deux autres qui ne parlaient ni l'autre langue, lui avait dit qu'on utilisait le même mot to shoot pour tourner et pour tirer. Et donc il disait, on est comme des chasseurs, on va aller se promener dans la forêt. La forêt, c'est la Chine en pleine mutation. C'est une sorte de jungle. Et ils vont tourner énormément d'images avec, de temps en temps, Chao Tao qui rentre dans le champ et Jiazhenke lui propose de jouer ou d'incarner ou d'avoir l'air d'être parti d'une histoire qu'on ne connaît pas. Et me dit-il, moi je ne fais que répéter ce qu'il m'en a dit, sans projet d'en faire un film. C'est une sorte de pratique d'utilisation de la caméra qui ensuite va se poursuivre de manière très régulière, y compris avec des outils très différents, puisque des caméras numériques plus puissantes, plus sophistiquées arrivent. Puis ils vont retourner vers le 35 mm ou le 16 mm à l'occasion, filmer en marge des tournages des films que Jiazhenke réalise pendant ce temps-là, en utilisant les mêmes matériels parce qu'ils les ont sous la main, mais des choses qui n'ont pas à voir directement avec le film, et que donc s'accumule pendant 20 ans un énorme matériau d'images et de sons. Qui sont donc le fruit de ces maraudes, on pourrait dire, ou de ce glanage.
C'est parti de chasse.
Voilà. Oui, mais c'est le glanage, la référence à Agnès Varda peut aussi servir en l'occurrence, jusqu'à l'arrivée du Covid, où là, de toute façon, tout s'arrête, ils ne peuvent rien faire. Et à ce moment-là, c'est Chao Tao qui lui dit, mais tout ça qu'on a tourné, peut-être ça vaudrait le coup de regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y avait, puis comment ils peuvent rien faire d'autre, en fait. Ils vont se lancer dans d'abord dans l'exploration des quantités gigantesques et commencer à imaginer, enfin de partir de l'idée que ça racontait quelque chose, qu'il y a un récit ou des récits, parce qu'il y a plusieurs histoires qui sont, à mon avis, plusieurs histoires d'amour, parce que ça raconte un amour malheureux, hein, c'est ce que vous avez dit, Antoine, c'est tout à fait exact, mais pour raconter cette histoire d'amour malheureuse entre donc une femme incarnée par Chao Tao à des moments différents de sa vie pendant 20 ans, et un homme incarné par Li Jubin, qui a été l'acteur de plusieurs des films de Jiazhenke, ça raconte une histoire d'amour avec Chao Tao, entre Chao Tao et Jiazhenke, entre Chao Tao et la caméra de Jiazhenke sur cette durée longue. Ça raconte une histoire d'amour pour le cinéma, de ce que le cinéma est capable de faire sur cette durée-là. Et ça raconte une sorte d'histoire d'amour et de tendresse, d'affection en tout cas, pour les Chinois. Les habitants du pays, les gens, ils vont faire émerger de ce gigantesque matériau accumulé au cours, puisque comme on sait, en Chine, le confinement, ça a été très long et très dur, très violent.
Brutal, ouais.
Donc ils sont très enfermés, mais du coup, il dit, au moins, ça nous aura donné le temps d'explorer plein de possibilités, parce qu'évidemment, à partir d'un tel matériau, on a plein d'options pour arriver à cet objet cinématographique très singulier qu'est Les Feux Sauvages.
Je dirais que ça raconte même l'amour des spectateurs pour le cinéma de Jajanke, puisque en voyant ces images, parfois réutilisant certains plans séquences qui étaient dans des films précédents comme Plaisirs Inconnus, Still Life ou Les Éternels, on a aussi un étrange sentiment de familiarité avec une histoire complètement nouvelle. Agnès de Sacy, vous avez découvert ce film hier. Qu'est-ce que ça vous a raconté à vous?
Alors, Non, moi j'ai trouvé que ce film était effectivement un chef-d'œuvre. Enfin, c'est un grand poème cinématographique. Et évidemment, ce que je trouve extraordinaire, Jean-Michel Frodon vient très bien de le raconter très très clairement, c'est le travail sur le temps. Pour moi, c'est évidemment le cœur du réacteur des grands questionnements du cinéma, de ce qu'on essaye de faire chacun à sa façon. Et là, il s'en empare de façon magistrale. Avec évidemment cette chose bouleversante qui est de voir les corps et les visages des acteurs, de son actrice, mais à travers le temps qui vieillissent avec nous, le temps d'une heure cinquante, c'est-à-dire que tout d'un coup, évidemment, il y a cette traversée du temps, de l'existence, de nos existences, donc dans un va-et-vient constant. Et je l'aurais pas dit comme ça, mais je suis tellement d'accord, parce qu'évidemment ce qu'il raconte aussi, c'est l'évolution du monde de la Chine, qui est parfois très brutale. Il y a quand même une technologisation forte, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils travaillent plusieurs matières, la matière, et qu'on passe vers le numérique. Au début, c'est d'ailleurs très émouvant de voir les petits textos avec les petits téléphones portables du tout début et comment tout ça évolue. Mais au-delà de cette violence, de cette froideur, de ce monde presque impossible à maîtriser, qu'il nous raconte magistralement, il y a quelque chose effectivement qui résiste et qui moi m'a bouleversée, qui est de l'ordre de la tendresse, qui est de l'ordre de la musique, qui est de l'ordre de la solitude, c'est-à-dire tout d'un coup, mais de la solitude d'êtres qui se croisent, et quand même un type en train de manger, un regard, une sorte de sursaut de vitalité qui résiste dans un monde où il y en a vraiment plus beaucoup. Et la vitalité surgit de partout. Et notamment par des scènes musicales, ce qu'on disait, c'est quasiment une comédie musicale, tout à fait.
Oui, c'est explicite la matière peut-être favorite de Jajanke, Jean-Michel Frodon, ce qui est l'utilisation de la musique, de la danse et de tout ce que ça raconte, là encore, de l'évolution d'un pays.
Tout à fait, c'est très important pour lui. Jajanke, avant de devenir cinéaste, c'est ce qu'il a raconté dans Plateforme, donc nous le savons comme spectateurs, il jouait du rock d'époque sur scène dans la période encore des tout débuts. Hein, ça se passe au tout début des années 80, qu'on commence à peine ce qu'on appelait l'ère des réformes. Et il est resté, voilà, la première fois que j'ai rencontré Jajanke, au bout d'une demi-heure qu'on discutait, il a sauté sur la table et il m'a chanté Blue Suede Shoes en entier. Et il a ce rapport à la culture populaire, et notamment musicale, qui est très importante, qui est dans tous ses films. Dans ce film-là, il a demandé à chacun des techniciens de dire quelle était la chanson importante pour lui. Il a essayé de mettre le plus possible des chansons des autres, et ça fait partie du dispositif, disons, très ouvert, très ample. On peut ajouter un autre élément qui est important dans le film, c'est qu'il se passe dans trois villes différentes, très éloignées l'une de l'autre. C'est pas toute la Chine, ça veut rien dire toute la Chine, mais c'est quand même une manière de dire il y a des mondes différents qui font ce monde-là. Ça passe par les chansons, ça passe par les histoires que nous racontons, comme ça passe par des corps qui sont pas les mêmes, et par des paysages, des lumières, on sent la température, il fait très froid dans Shanxi, il fait très chaud dans l'extrême sud, dans Yunnan, où se passe une partie du film, qui compose la richesse du film.
换掉腰长的衣裳，妻子在澳洲，我去喝几瓶啤酒，如此生活30年，直到大厦崩塌，云层深处的黑暗啊。 淹没心底的景观。
Merci Jean-Michel Frodon, Les Feux éternels de Jajanque. Les Feux sauvages. Les Feux sauvages. J'ai mélangé tous ces films après tout. Les Feux sauvages de Jajanque est lui aussi sorti en salle ce mercredi. Pour en savoir plus sur le cinéaste chinois, on renvoie nos auditrices et auditeurs à votre livre, Le Monde de Jajanque. C'est aux éditions Yelono. En attendant, on l'espère, une version augmentée un jour de cet ouvrage. Et on signale aussi apparaître la semaine prochaine, le 15 janvier, Cinéaste du 21e siècle, un recueil d'entretiens que vous avez réalisé avec une douzaine d'entre eux, de Wang Bing à Pichatpong, ou Weerasethakul, c'est aux éditions AOC. Vous écoutez France Culture, et dans Plan Large, on ouvre comme chaque samedi le journal du cinéma avec encore quelques autres films sortis et surtout ressortis cette semaine. Retour sur image, on n'en sort pas.
Hi, how are you?
Better. Much better since you said yes.
Room service. Brought you some soaps and a little bubble bath to soothe you in the tub, and some chocolate cupcakes for a late night snack.
There are people in town, honey, that would have shot her for $5.
Qui peut croire une fable pareille?
Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie.
Między wszystkimi historiami.
Nie pójdziesz dziś do szkoły.
Una sera c'è mal di testa, una sera c'è mal di schiena. Tutte scuse. Sono tre mesi che prendo la pillola per niente. Sono stufa, capito?
Ma da cerco le scuse. Ma da cerco le scuse io. Devi stare molto attenta con Lulu, molto attenta, anche se Lulu non è più quello sensi di 10 anni fa, perché adesso è stanco. Dov'è che...
Sur vos écrans, depuis ce mercredi, une amitié entre deux femmes jusqu'à une mort décidée par l'une et accompagnée par l'autre, c'est la chambre d'à côté, la première incursion états-unienne en long métrage, en tout cas de Pedro Almodovar, avec les toujours sublimes Julianne Moore et Tilda Swinton, sous les auspices de James Joyce, John Huston, Eduardo Hopper et tant d'autres encore. La liste est très longue des références où le contrôle absolu de leur destin pour ces personnages et de ces images pour le cinéaste conspire pour tenir à distance l'angoisse de la mort, trop peut-être, pour qu'on arrive à s'émouvoir autant que l'on admire. Almodovar, celui joyeusement foutraque des débuts, on y revient dans un instant. La mort, mieux vaut peut-être en rire d'ailleurs, à l'instar de Bernie, ce film inédit en salle de Richard Linklater. Il date de 2011, entre comédie noire et faux documentaire, où un très joyeux croque-mort et embaumeur d'exception, roi de la chansonnette et consolateur de veuves, ne perd pas en popularité dans sa petite ville texane, bien au contraire, après avoir aussi l'une d'entre elles. Il faut dire qu'il est interprété par un Jack Black à son meilleur, ça aide un peu. Tout aussi hableur que Jack Black dans les cours de justice, comme à l'écran, c'est Nicolas Sarkozy, héros à son corps défendant de personne n'y comprend rien. Le documentaire de Yannick Kergoat, qui met en image l'enquête au long cours des journalistes de Mediapart, Fabrice Arfi et Karl Laske, sur le supposé financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. On regrettera l'absence presque totale de cinéma dans ce film, tout en saluant la compréhension qu'il permet d'une affaire effectivement aussi complexe que romanesque. Un voyage fiévreux et irrésumable dans l'inconscient antisémite du roman national polonais, c'est le retour en salle du chef-d'œuvre baroque et surréaliste de Wojciech Haas, La Clepsydre, à voir au moins une fois dans sa vie. Des gamins révoltés par la servilité de leur père et le harcèlement de leurs congénères, ces gosses de Tokyo, comédie burlesque et amère du jeune Yasujiro Ozu, en 1932, lui aussi de retour en salle dans une très très belle version restaurée. Nous en reparlerons plus longuement la semaine prochaine avec Mathieu Macheret. Et puis enfin, tout aussi burlesque et amère, la prise de conscience politique d'un ouvrier stakhanoviste dans l'Italie en ébullition des années 70, c'est La classe ouvrière va au paradis, le film qui avait valu à Elio Petri une palme d'or en 1972, à voir en version restaurée sur grand et petit écran, puisqu'il est parallèlement à sa ressortie en salle, édité en DVD et Blu-ray chez Tamasa. Pour rester dans le cinéma italien, mais d'aujourd'hui, on signale encore que le festival de Rome à Paris se tient partir de demain et jusqu'au 22 janvier au Christine et École Cinéma Club avec la projection de 10 longs métrages sortis en Italie en 2022 et encore inédits en France. Et l'avant-première le 23 janvier au Publicis Cinéma des Champs-Élysées du nouveau film de Ferzan Özpetek, Diamanti, en présence notamment de la comédienne Yasmine Trinca. Pour élargir le champ géographique, le festival Un État du Monde, c'est au Forum des Images du 15 au 31 janvier. Et le Festival International du Film Politique, c'est à Carcassonne du 16 au 20. Enfin, on vous donne rendez-vous mercredi prochain à 20h30 au cinéma Le Méliès à Montreuil pour la première de Spectateur, le nouveau film d'Arnaud Desplechin. C'est une séance France Culture et ce sera suivi, comme de juste, d'un débat avec le cinéaste. Ceci annoncé, il est l'heure d'une vigoureuse, quoique infructueuse, descente de police.
Esa plantita, ¿tú la plantas?
La tengo para decorar mi casa. No sabía que fuera un delito.
¿Es de plástico?
Me ha costado 15.000 pelas.
¡Plástico, trae! ¿No sabe usted que está prohibido burlarse de la policía?
¿Y no sabe usted que las plantas de plástico están de moda?
¡Vámonos!
C'est chez la pimpante Pépi, on aura reconnu la voix de la jeune Carmen Maura, en sympathique dealeuse de marijuana, qu'un policier machiste et conservateur, qu'il a par ailleurs précédemment violé, effectue sur ce martial passo-doble une descente de police, ne trouvant malheureusement pour lui, en guise de plantes cannabis, que des plantes en plastique. C'est une scène de Pépi, Lucy Baum et autres filles du quartier, le premier long métrage sorti en salle, en tout cas, et avec quel succès, dans l'Espagne en ébullition de 1980, de Pedro Almodovar, un film totalement bricolé et sans argent, à la fois émanation et formidable témoignage de la Movida, dont le ton outrancier, inspiré directement de l'underground trash d'un John Waters ou d'un Paul Morrissey, n'empêchera pas de lancer la carrière du cinéaste qui, 35 ans plus tard, s'en étonnait encore. « Je m'attendais à provoquer un scandale », dit-il alors, « mais l'important est ailleurs, dans la proximité que certains spectateurs ont ressenti avec ce film. » Quelle proximité aujourd'hui avec ce film, Sandra Onana?
Bah, c'est frappant, puisqu'on parle de proximité, de voir qu'Almodovar a quand même légué une sorte de logiciel d'exubérance qui travaille beaucoup, je trouve, les auteurs du cinéma contemporain sur les enjeux similaires de revanche du féminin contre un ordre ancien. Si on pense rien qu'en 2024 au film de Noémie Merlant, Les Femmes du Balcon, qui cite énormément ce film-ci, jusqu'au plan de balcon, de fenêtre, les gags scato, l'idée d'un viol dont il faut se venger. À l'échelle d'une superproduction, on a quand même eu la réinvention de Jacques Audiard un peu en start-up d'Almodovar avec Emilia Pérez, et à l'autre bout du spectre underground, au Reine du Drame d'Alexis Langlois. Donc on a une idée de cette proximité qu'entretient le présent avec un film comme celui-ci. Et puis c'est drôle, parce que si on s'en tenait qu'aux œuvres les plus récentes d'Almodovar, comme ce film de la maturité dont on parlait, que moi je trouvais magnifique, en salle, la chambre d'à côté, ce serait facile d'oublier ce que c'était que ce cinéma de jeunesse, celui de la contre-culture post-franquiste, la Movida. Et il faut arriver donc à se représenter le niveau d'inconvenance, de cochonnerie et de bordel, en fait, que met ce jeune cinéaste dans un pays qui sort de 40 ans d'apnée politique et sociale, et qui tout à coup se réveille dans un pays où c'est possible qu'un film comme celui-ci existe. Et on a un peu envie de dire un film garage, comme il y a du rock garage qui prône la déviance, la superficialité, pour mieux ridiculiser les gardiens de ces institutions morales, de cet ordre ancien de la dictature. qui est donc incarné par cette double figure du flic et du mari, un homme forcément nostalgique de l'époque franquiste et qui tabasse sa femme en toute décontraction. En face de lui, on a cette galerie d'héroïnes, donc dépravées, sadomaso, déviantes en tout genre, lesbiennes, droguées, femmes à barbe, tout le monde fait un peu des passes, et le film s'offre quasiment comme un catalogue de perversions à explorer. Il y a ce dialogue génial entre le policier et son épouse encanaillée, où il lui dit « qu'est-ce que tu as fait ?» Elle lui répond « tout ». Donc une fois qu'on a dit ça, il faut dire deux mots de l'intrigue. C'est donc l'histoire de Pépi, cette jeune femme qui se fait violer par un flic et qui décide de se venger en dévergondant sa femme. Par bonheur, la femme n'attendait que ça. Et le premier baptême, si je puis dire, de débauche que lui réserve le film dans une scène assez mythique qu'on voit pas venir, c'est celle de la golden shower, douche d'urine en bon français, où la bonne épouse conservatrice confesse qu'elle a épousé un flic par goût de l'humiliation et se fait donc sans plus tarder uriner dessus par la meilleure copine de Lucie, de Pépi, pardon. Elle est jouée par l'icône rock de la Movida, la chanteuse Alaska. Alors, on sait que c'est un scénario que le jeune Pedro destinait plutôt à un roman photo. Et ça se ressent donc dans cette structure hyper décousue de film à sketch, en fait, avec des interludes musicaux, des gestes de détournement. On interrompt la fiction avec des fausses coupures de pub sur une invention révolutionnaire pour péter en toute discrétion, pour un slip hyper absorbant. Et c'est primordial, en fait, que tout le film se présente sur ce mode du canular, en empruntant au registre de l'opérette, de la telenovela, y compris quand il est question de violence, notamment conjugale. Parce que inventer ce mode d'existence burlesque, ça aussi, ça sert à ridiculiser le sérieux des années de dictature. En définitive, ce qu'on retient de ce monde, premièrement, c'est qu'il n'y a pas besoin de nudité pour faire un film d'exhibo. L'exhibition du film, elle se joue presque entièrement à l'échelle des dialogues. Et sans être hispanophone, vraiment, je me suis laissé dire, et j'ai des bonnes sources, que le niveau d'obscénité des répliques est à peine traduisible en français. Deuxièmement, le film offre peut-être une clé à ceux qui trouveraient justement que le formalisme d'Almodovar aujourd'hui, qui confine dans des univers très clos, stylisés dans la couleur, où l'extérieur ne peut pas vraiment rentrer. On se dit que cet univers caractéristique, un peu design de meubles, de papier peint, découle un peu de cette économie fauchée qui lui donne l'occasion de s'épanouir plastiquement dans la contrainte du film d'intérieur, parce que ça coûte cher de filmer en extérieur. D'où ce côté aussi sitcom, un peu Hélène et les garçons, quoi, dans ces décors très, très confinés. Et puis thématiquement, on voit bien que tout ce que développera l'œuvre d'Almodovar sur le temps long est déjà là, à commencer par l'invention de cette communauté de femmes, comme une promesse sur laquelle se referme assez joliment le film. Il y a un dialogue entre les deux copines, Pépi et Baume, qui porte sur la dissolution de leur groupe de musique. On sent que c'est un film de renouveau qui porte déjà la petite mort de quelque chose, la fin d'une ère, tout en ouvrant un horizon de compagnonnage pour elle, puisqu'elle se propose « et si on s'installait ensemble ?» Et c'est assez joli parce que ça jette quelque part les bases du contrat amical que noue peut-être le spectateur avec le futur cinéma d'Almodovar. On entend souvent que c'est un monde dans lequel on se verrait bien vivre, et c'est toujours aussi vivace dans ce dernier film en date, La chambre d'à côté, le projet de cinéma le plus pur d'Almodovar. On a l'impression que ce serait la coloc, et c'est l'invitation toujours renouvelée à habiter ensemble.
Yo soy maricón, es de mi pueblo, ¿sabes? Tony, ¿qué pasa? Yo es que también canto, ¿sabes? Otro estilo,
pero eso. Además soy modelo. Bueno, ya te habrás dado cuenta, ¿no? Se ve.
¡Tony! Y me ha dicho mi representante que a ver si tengo posibilidad. Me ha dicho que sí, a lo mejor sí.
Oye, ¿y no me darías tu teléfono?
¿Mi teléfono? Oye, niño, ¿tú por qué me has tomado? Quita esa mano.
Yo, ¿a mano yo?
¿Has fijado? Todos son iguales. Sí,
pues.
Merci Sandra Onana. Pépi, Lucy, Baum et les autres, c'est à voir sur la plateforme Mubi et à comparer utilement au nouveau film de Pedro Almodovar, 45 ans après, La Chambre d'à côté. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son d'Alia, l'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.